Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord. Christophe pour vous accueillir aujourd'hui sur nos ondes. Je suis en compagnie de l'excellente Ingrid Riocreux, agrégée en lettres modernes, docteur de l'Université Paris 4, spécialiste en grammaire, en stylistique, en rhétorique et auteur du fameux livre « La langue des médias » dont on parle beaucoup depuis quelques mois, à juste titre me semble-t-il, tant cet ouvrage est salutaire qui nous permet de décrypter les codes de la langue médiatique contemporaine. La langue des médias a fait l'objet d'une première émission le mois dernier et Ingrid est de retour aujourd'hui dans nos studios à ma demande. Je voulais lui soumettre un autre sujet mais qui est en rapport intime finalement avec la langue. Il s'agit de la pensée mais pas de n'importe quelle pensée, c'est de la pensée unique. Ingrid, vous avez mis en lumière l'univocité du discours médiatique. Cette univocité est-elle au service d'une pensée unique ?
Alors c'est intéressant de parler d'univocité justement parce que c'est avant tout un discours unique. Alors il est probable que les journalistes adhèrent à ce discours, en ce sens il y a bien l'existence d'une pensée unique, au moins dans une certaine sphère médiatique, une certaine caste on peut dire. Maintenant l'impression qu'on a c'est qu'il y a une pensée unique dans laquelle nous serions impliqués, c'est-à-dire nous partagerions cette pensée unique, ou au moins les gens autour de nous, etc. Et ça je pense que c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup plus on a beaucoup plus le sentiment qu'il y a une espèce d'adhésion obligée à ce discours. Donc vous voyez, c'est plus complexe finalement. On reçoit un discours, et ce discours, comme le disait Laurent Fidès dans un livre qui est sorti il y a un an à peu près, c'est un discours intimidant. C'est-à-dire que ce discours a un caractère finalement terroriste. Il nous donne l'impression que si nous n'y adhérons pas, nous pensons mal, nous sommes dangereux, nous avons peut-être une tendance un peu fascisante, nous sommes trop à droite, nous ne sommes pas dans le sens de l'histoire, etc. Ce discours, il s'impose à nous comme étant ce qu'il est naturel de penser, et nous avons l'impression finalement de tenir un discours contre nature si nous n'adhérons pas. Et comme nous tenons ce discours, ben nous exprimons finalement, nous participons de cette impression qu'il y a une pensée unique.
Est-ce qu'on peut parler d'une rééducation politique du public via le média ?
Oui, alors ça, le terme de rééducation, j'y adhère complètement, puisque les journalistes ont le sentiment qu'ils ont la responsabilité de nous rappeler qu'il y a des pensées dangereuses, des choses qu'il ne faut pas dire, etc. Alors ça peut se manifester par la manière dont ils vont mener une interview, par exemple, reprendre un interlocuteur. Voilà, vous employez tel mot, est-ce que ce n'est pas dangereux, etc. L'autre jour, Jean-Michel Apathy parlait à la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et lui disait quand même, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut rendre la France aux Français. Est-ce que c'est pas un peu gênant de reprendre ces mots ? Alors qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne met pas du tout la même chose que Marine Le Pen derrière ces mots-là. Donc après, il faut entrer dans la subtilité quand même du discours. Mais on voit bien que Jean-Michel Apathy se dit « Ouh là là, danger oui. ». Voilà. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des interventions du CSA qui, lui, va vraiment sanctionner ou rappeler à l'ordre des gens qui ont tenu des propos inadéquats.
Vous avez mis en lumière, oui, ça, vous avez mis en lumière dans votre livre ce rôle un peu contraignant du CSA, même vis-à-vis des journalistes.
Oui, c'est ça. C'est régulièrement, ils vont intervenir pour dire attention, dans tel débat, on n'a pas assez rappelé que telle pensée est nauséabonde, dangereuse. On n'a pas assez insisté sur le caractère outrancier des propos de telle ou telle personne reçue sur le plateau, etc. Le CSA va indiquer aux journalistes comment ils doivent mener l'interview et même leur reprocher parfois de ne pas être suffisamment engagé contre la personne qui est reçue en plateau.
Alors, la pensée unique, c'est pas d'aujourd'hui, parce que ça a été inventé, si je ne m'abuse, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est Jean-François Kahn qui l'a inventé en 93 dans un article de l'événement du jeudi, qu'il dirigeait alors, puis il a écrit un livre sur la pensée unique, où là, il s'agit surtout de dénoncer la doxa néolibérale, déjà, à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent, peut-être, on dénonce autre chose.
Alors je crois surtout que la notion même de pensée unique a des acceptions différentes. Quand un homme plutôt à gauche va parler de pensée unique, ça va être pour dénoncer justement une forme de discours néolibéral communément accepté et jamais remis en cause par tout le monde, et notamment dans les médias d'ailleurs. Et puis quand des gens de droite vont employer cette expression, ça va être plutôt pour viser une pensée unique, disons, portant sur des questions sociétales. Voilà, ça va être le mariage gay, etc., des choses comme ça, l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut pas critiquer, voilà, c'est pas la même acception du terme.
Oui.
Est-ce que c'est pas le même champ non plus d'application.
Alors cette pensée unique, si elle existe, et il semble bien qu'elle existe, puisque le discours unique existe, qui la mitonne finalement ? Qui est derrière, à votre avis ?
Alors ça, c'est toujours difficile à dire, parce que quand on commence à dire ça, on a l'impression qu'il y a un grand Manitou.
Oui.
Bon, moi, j'y crois pas du tout. Mais c'est surtout... comment dire, une espèce de réflexe, une espèce d'axe, un courant naturel finalement de la pensée dans lequel les médias ont une grande responsabilité. À partir du moment où un lobby présente ses idées comme allant dans le sens du progrès, s'il est assez convaincant, alors les journalistes vont accepter de nous présenter les choses comme ça. Donc finalement, il y a un moment donné où le discours médiatique est vraiment déterminant. À partir du moment où les journalistes vont décréter que oui, c'est le bon moment, que oui, ils acceptent même cette pensée comme allant dans le sens de l'histoire, alors ils vont nous la faire passer comme ça. Ils sont vraiment la courroie de transmission finalement de cette pensée. Ils vont constituer ce discours à partir des différentes mouvances de la pensée dite progressiste.
Oui. Voilà. Oui, vous parlez de sens de l'histoire, c'est intéressant. Ce sens de l'histoire, il se traduit par quoi finalement ? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce sens de l'histoire dont vous parlez ? Quelle valeur, quelle...
Disons que c'est une espèce de croyance assez irrationnelle dans le progrès, l'impression que finalement, alors c'est ça qui moi me frappe, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'en finir avec des valeurs héritées, par exemple, enfin évidemment du christianisme, etc. Mais finalement, on peut dire aussi que c'est un énorme bond en arrière, de retour à l'époque pré-chrétienne,
oui,
finalement.
Paganiste.
Voilà, sur certains points, hein, c'est assez frappant et ça donne des choses qui sont à la fois contradictoires et assez irrationnelles. Hein, si on prend la question de l'avortement, finalement, si vous revenez à l'époque romaine, au moins on avait une forme de cohérence, c'est-à-dire que le père et la mère avaient une espèce de droit de décider si l'enfant avait le droit de vivre. Donc la femme pendant toute la grossesse, finalement, et puis le père après, à partir de la naissance. Et aujourd'hui, on est dans une situation bizarre où c'est inégalitaire, c'est-à-dire que seule la femme a le droit de décider si son enfant va ou non vivre. Et puis c'est uniquement jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Non, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi pas plus loin ? Pourquoi pas avant ? Donc, c'est une espèce de situation bâtarde qui est forcément intermédiaire, hein, et qui peut aussi bien être considérée comme une espèce de semi-retour à une situation antérieure, pré-chrétienne. Ouais.
On vous dira que la femme est propriétaire de son corps. Ça aussi, c'est encore le moi-je qui est à l'œuvre.
Oui,
Non,
mais c'est un argument qui est intéressant parce que justement, alors il y en a qui disent oui, mais le bébé, c'est pas le corps de la femme, mais absolument. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? On dit que effectivement, la femme, elle est seule juge finalement de qui a le droit de vivre dans son corps. Et évidemment, je refuse que tel ou tel microbe se développe en moi. Je peux refuser aussi que tel ou tel être humain se développe en moi, si vous voulez. C'est un bon argument. La question n'est pas là, j'ai envie de dire.
Ouais. Mm. On va écouter un peu de musique. Vous aimez Mendelssohn ?
Oui.
Alors on va écouter Mendelssohn.
Thank you.
avant d'écouter Mendelssohn, nous reprenons le cours de cette émission. Je vous rappelle que je reçois Ingrid Riocreux, qui a publié récemment un livre dont on parle beaucoup, La langue des médias ou La fabrique du consentement. J'aime beaucoup ce sous-titre, La fabrique du consentement, c'est-à-dire qu'on essaie de fabriquer chez chaque être humain, chez chaque téléspectateur, un consentement au discours médiatique, à la pensée unique finalement, qui nous occupe aujourd'hui. C'est un peu ça. On essaie de faire de nous des gens dociles.
Oui, c'est ça. Alors ce que je trouve, ce qu'il faut bien dire, hein, c'est que ce qui est derrière la pensée unique, c'est finalement un paradigme de pensée. On parlait tout à l'heure de l'IVG. À partir du moment où on abandonne le paradigme de pensée chrétien, il n'y a plus aucune raison, à mon sens, d'être contre l'IVG. Ça, c'est très important de le voir, parce que ça veut dire aussi, quand vous êtes sur un plateau télé, voilà, vous êtes face à des gens qui n'ont pas le même paradigme de pensée que vous. Et ça veut dire que finalement, ils n'ont absolument aucune raison d'être opposés à l'IVG, mais, et c'est ça qui est intéressant, ils n'ont aucune raison, par exemple, d'être opposé à l'IVG à 8 mois de grossesse, puisqu'après tout, c'est uniquement à partir de la naissance de l'enfant qu'il est considéré juridiquement comme une personne.
Alors comment expliquer ce paradoxe ?
Eh bien, moi, j'appelle ça, c'est une espèce de reliquat, finalement, de christianisme dans la pensée des journalistes. C'est assez intéressant quand ils disent les chrétiens considèrent que l'avortement est un homicide, mais la loi aussi, voilà. Le problème, c'est, est-ce qu'un homicide, c'est mal ? Après tout, on pourrait considérer que dans toute civilisation, il y a des cas où tuer, c'est bien. Après tout, l'euthanasie, voilà, on pourrait dire, voilà, l'IVG aussi. Mais eux, ils ont du mal. Voilà, tuer, c'est pas bien quand même. Oui. Donc, ils vont dire, l'avortement, c'est pas vraiment tuer. Alors qu'on pourrait très bien dire, non, mais après tout, on n'est plus dans une société chrétienne. Donc, tuer, parfois, ça peut être légitime. Donc, ils essayent de tenir les deux. Il y a une espèce de reliquat de pensée chrétienne, de tu ne tueras point, dans ce discours médiatique.
Ouais. De la même manière, pour l'euthanasie, on parle de suicide assisté, parfois, ou d'autres, d'autres expressions en vigueur.
Suicide assisté, on peut dire, après tout, c'est quand même la décision de la personne. Ouais. Mais parfois, on voit bien que c'est pas du suicide assisté, ça va être une forme de meurtre bienveillant. Bon, il souffre trop, donc on va le tuer. Là aussi, les journalistes ne disent jamais ça. Les lobbies pro-IVG ou pro-euthanasie n'ont pas de problème avec ces notions-là. Ils sont déjà dans une lecture post-chrétienne du monde. Alors que les journalistes vont essayer de dire, Vincent Lambert, donc là, le jeune garçon dont il est régulièrement question parce qu'il est maintenu en vie, etc. Bon, il faudrait le laisser partir. Ils ont du mal à dire les choses, voilà, parce qu'ils sont encore marqués finalement par une lecture chrétienne du monde. C'est assez intéressant de voir comme ils sont dans cet entre-deux. C'est aussi ça, la pensée unique, finalement.
Ouais. L'affaire Vincent Lambert, dont on entend très peu parler maintenant, d'ailleurs, à présent, on a l'impression que les médias l'ont abandonné. Il faudrait peut-être fouiller, il y a peut-être du nouveau, justement, non ?
Il y a eu une décision de justice récemment, mais je crois qu'elle est à nouveau contestée par la famille. Enfin, voilà, maintenant, disons que les médias, pour l'instant, ont laissé ça de côté. Ils y reviendront quand ils auront envie d'en reparler. C'est comme ça, hein, ça va, ça vient. Hein.
Parce qu'on voit qu'il y a des sujets qui sont parfois occultés. Hein. Je pense, par exemple, à l'affaire Mehdi Mekhlat. Je suis sûr que peut-être une grande partie de nos auditeurs ne savent même pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'affaire Mehdi Mekhlat et montrer à quel point, finalement, cette affaire, qui est pourtant assez choquante, là, c'est un mot qu'on emploie très souvent, choquante, mais il me semble que là, c'est approprié.
Donc Mehdi Mekhlat, c'est une espèce de figure médiatique. C'est un jeune homme qui est issu de l'immigration, des banlieues, et qui a réussi dans les médias. Bon, c'est aussi un homme de lettres, apparemment, puisqu'il a écrit des romans, publié au Seuil, et il a été reçu donc sur France Inter, il a été encensé dans Le Monde, il a fait la une des Un Rock, etc. Donc c'est une figure qui est conçue comme positive, à tel point que on lui a excusé beaucoup de choses, notamment un certain nombre de tweets assez violents, antisémites, etc., sur Twitter, donc qu'il a publié sous un pseudonyme, mais tout en faisant bien savoir qu'il était derrière ce pseudonyme. Et ces tweets étaient bien connus de tout le monde, hein, puisque dans Le Monde, ils avaient dit donc que vraiment il avait un humour très corrosif. Or, c'était ce qu'on appellerait des tweets politiquement incorrects, et même on peut dire des dérapages. Ouais. Seulement, ils lui ont été excusés au nom justement de la pensée unique, qui ne voulait voir dans ce garçon que des aspects aspects jugés positifs, c'est-à-dire le fait d'être issu de l'immigration, le fait d'avoir écrit des romans et tout ça. Même donc Madame Taubira ne voulait pas concilier dans sa tête l'idée que ça puisse être quelqu'un qui peut-être écrit bien, qui s'exprime bien, qui effectivement a réussi dans la vie, mais qui en même temps développe une pensée sur certains sujets extrêmement violente, quoi. Ouais.
On rappellera que les tweets sont extrêmement violents de Mehdi Mekla, qui sont antisémites, qui sont parfois d'ailleurs d'un racisme anti-blanc. Oui. Le racisme anti-blanc qui est absolument fait l'objet de dénégation de la part de journalistes. On se souvient qu'il y avait eu une pétition qui avait été notamment signée par des intellectuels comme Alain Finkielkraut pour dénoncer, puisqu'on dénonce à raison, je le rappelle ici, le racisme anti-noir, anti-arabe, etc. Il n'y a pas finalement de raison de ne pas dénoncer le racisme anti-blanc quand il se manifeste. Et ça a été le cas avec l'affaire Mehdi Mekla, finalement.
Oui, oui. Il y a des choses qu'on s'interdit de penser parce que cela ne correspond pas au paradigme dominant de ce qui est considéré comme bien ou mal. Bon, ce qui est, moi, à la limite, si vous voulez, il dit bien ce qu'il veut dans ses tweets. Mais le problème, c'est que les médias qui sont prompts à nous faire la leçon pourraient avoir, la cohérence de dire que le bien qu'il pense de ce monsieur est limité par certains de ses propos, voilà. On voit bien qu'il y a une positivation globale du personnage au nom de certains aspects de sa personne, si vous voulez. C'est ça qui est très gênant dans cette affaire. Et on voit aussi que la parole médiatique est totalement libérée de tout devoir de subtilité et de nuance. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sous silence ce qu'il a pu dire de mal pour glorifier sa personne. Alors qu'on pourrait tout simplement dire que c'est un personnage complexe, que certains aspects sont tout à fait louables, qu'à côté de ça, il tient telle ou telle sorte de propos. Voilà, c'est quelque chose de normal. C'est assez humain, finalement, d'avoir une part d'ombre et une part de lumière. Seulement, ça, on ne le voit pas dans les médias. Ouais. Pour les gens, dans les médias, on est tout beau ou on est tout moche.
Ce qui est assez incroyable, c'est le soutien indéfectible, par exemple, de Pascal Clark sur France Inter. France Inter, grand média, qui continue de soutenir Mehdi Mekhlat, même maintenant. C'est assez surprenant, non ?
En même temps, c'est difficile de se remettre en cause. Hein. Ouais. Là aussi, c'est très humain. On peut comprendre cela. Hein. Mais je pense qu'ils sont quand même très gênés par cette affaire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu... Ça fait énormément de bruit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Silence total dans les grands médias. Mais le New York Times a fait un article sur l'affaire Mehdi Mekhlat. Ah, oui. Parce qu'ils ont jugé que c'était symptomatique de l'état, justement, de l'idéologie en France.
Idéologie qui n'est donc pas partagée outre-Atlantique, alors.
Il trouvait ça très symptomatique du fait que on cherche à imposer des personnages comme des modèles et que donc on va aller jusqu'à gommer certains aspects de leur personnalité au nom d'une espèce d'idéologie qu'on pourrait dire immigrationniste, etc. Bon, c'est un autre problème. Mais c'est sur la méthode qu'il faut se remettre en cause. Voilà, c'est pour ça, moi je dis, il peut bien dire ce qu'il veut sur Twitter. Moi, ça ne me dérange pas, si vous voulez. Le problème, c'est quand les médias... sachant ce qu'il a dit, en dresse des portraits extrêmement positifs. Voilà.
Oui. Vous aimez Mendelssohn, mais vous aimez aussi les Beatles.
C'est exact.
Vous êtes très éclectique. On va écouter les Beatles si on reprend le cours de cette émission tout de suite. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when C'était les Beatles. Je ne vous donnerai pas le titre parce que mon anglais est absolument déplorable. On reprend le cours de cette émission avec Ingrid Riocreux, auteur de La langue des médias. Nous parlons aujourd'hui de la pensée unique et je me demandais, pendant que vous écoutiez les Beatles, je me demandais si cette pensée unique a des fondements philosophiques en France et quand remonte-t-il finalement, s'ils existent ?
Oui, oui. Alors le mythe du progrès se développe effectivement au XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même au moment où il se développe, il est déjà remis en cause. Quelqu'un comme Chamfort, donc qui est, on dirait plutôt à gauche aujourd'hui, est tout à fait, très très critique et considère que c'est une espèce de nouvelle religion qui n'a pas plus de valeur que n'importe quelle religion, que c'est totalement irrationnel et il s'en moque beaucoup. Il tourne complètement en dérision ce mythe du progrès alors qu'il le voit en train de se développer. Il est vrai aussi qu'il assiste à la révolution dans ce qu'elle a de pire, puisqu'elle va le conduire au suicide, et il considère que c'est l'aboutissement normal de ce mythe du progrès. Donc on voit que dès le début, ce mythe du progrès est problématique. Mais néanmoins, on baigne dedans, comme vous disiez, vraiment, on est complètement porté par ce mythe du progrès, cette croyance absolument irrationnelle, et moi, donc, je vois ça particulièrement quand je corrige les copies de concours chaque année, donc c'est quand même des copies de concours pour entrer dans des grandes école, on est à bac plus 3 et on voit des trucs hallucinants. Moi, à chaque fois, je pense à ce qu'on nous dit à la télé quand on nous parle de en finir avec le roman national. Mais ce qu'on apprend aux élèves, enfin, ce qu'ils apprennent notamment dans les médias, parce que c'est de ça qu'ils sont imprégnés, c'est aussi un roman. Cette impression qu'il y a une espèce de grand trou noir, les âges obscurs, qui durent jusqu'au 18e. Au 18e, les Lumières et maintenant nous. Alors, on a l'impression qu'avant, c'était vraiment absolument homogène et absolument atroce, alors que, par exemple, au Moyen-Âge, on sait qu'il y avait une espèce de liberté sexuelle, par exemple. Il y avait aussi la liberté pour les femmes de travailler. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien en dire. Et puis, évidemment, entre les Lumières et nous, il y a quand même le 19e siècle, qui, sur certains aspects, peut être considéré comme rétrograde.
Rétrograde, terriblement rétrograde.
Voilà, le fait que les femmes ne travaillent plus, une certaine pudibonde qui se développe dans la bourgeoisie, voilà, des choses comme ça qui peuvent être considérées au regard de la pensée actuelle comme des retours en arrière. Donc cette idée qu'il y aurait une espèce de progrès normal, naturel, vers une fin de l'histoire fantasmée, devrait être remise en cause. En fait, elle est vraiment répandue aussi bien dans les sphères médiatiques qu'intellectuelles.
Oui. Finalement, c'est moins le goût de l'avenir que la haine du passé qui anime les tenants de la pensée unique, non ?
Oui. Oui, oui, eux qui sont réactionnaires, c'est eux qui sont sans cesse en train de remettre en cause, de réagir contre ce qui a été l'ancien temps ou la vision qu'ils en ont, ça c'est certain.
Ouais. Dans l'actualité, est-ce que vous voyez encore à l'œuvre la pensée unique dans l'actualité de ces dernières semaines ? On est en pleine campagne électorale, vous la voyez à l'œuvre ?
Oui, bah il y a l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec Apathy qui est là pour juger, pour veiller à ce que on n'emploie pas tel ou tel mot parce que il va les juger un peu trop nauséabonds. C'est ce genre de choses, cet encadrement médiatique qui me fait dire que moi, que l'élection est d'une certaine manière confisquée par les médias.
Oui. Les réseaux sociaux, on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, on en parle souvent, y compris ici parfois pour les critiquer, mais là, du coup, ils ont un rôle très libérateur, finalement, ils nous permettent de nous exprimer à l'écart de la pensée unique ou du discours médiatique unique.
Oui, peut-être que le plus symptomatique en la matière, c'est le choix qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, suivi après par d'autres candidats, notamment par le Front National, le choix de faire une web TV. Et il l'a dit lui-même, c'est pour contourner les médias. C'est-à-dire qu'il il estimait que dans les grands médias, il ne pouvait pas développer sa pensée, qu'il était sans cesse interrompu, que ses propos étaient biaisés et tout ça. Donc il fait sa web TV. Et ces petites vidéos donc qu'il diffuse sur YouTube, elles n'ont de sens que parce qu'il sait qu'elles vont être partagées sur les réseaux sociaux. Et c'est à cela d'ailleurs qu'on juge qu'il a un succès énorme parce qu'elles sont effectivement vues de nombreuses fois et partagées de nombreuses fois. Donc les réseaux sociaux finalement permettent d'offrir un canal médiatique alternatif pour contourner les grands médias et échapper finalement cette chape de plomb idéologique qu'ils font peser et aussi au cadre extrêmement contraignant qu'ils imposent à la parole politique.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que... J'ai l'impression que cette pensée unique, elle ne fonctionne plus, que ces injonctions ne fonctionnent plus auprès du grand public. On a eu beaucoup de surprises sur le plan électoral, mais je me rappelle aussi du référendum sur le traité de Lisbonne. Il y a eu une campagne pour le oui, je veux dire, dans les médias, on le voyait bien. Mmh. Et puis finalement, le peuple français a dit non. On a d'autres exemples comme ça.
Oui, on pourrait mettre aussi le 21 avril 2002, qui est peut-être le point de départ le plus tangible de ce retournement progressif de l'opinion. Bon, il y a du bien et du mal là-dedans, parce qu'effectivement, à partir du moment où on commence à se dire tout ce qu'on me dit dans les médias, de toute façon, c'est mauvais, voilà, je vais réagir de manière systématiquement inverse à ce qu'on me dit, eh bien, ça devient tout aussi dangereux, oui. Évidemment, et on le voit bien d'ailleurs, et notamment sur les réseaux sociaux, et on peut voir cette violence, ce rejet extrêmement systématique, automatique et violent de la pensée dominante. C'est pour ça que moi j'en appelle toujours plutôt à l'esprit critique, à une saine distance, et même à prendre ça aussi parfois avec le sourire, quoi, être capable de se dire bon voilà, ils vont encore nous dire ça, bon voilà. Moi j'aime bien dire par exemple que j'en ai absolument rien à faire du réchauffement climatique, bon c'est surtout que je n'y connais rien et donc je me permets pas d'avoir une opinion là-dessus, plutôt que de dire ah bah non, puisqu'on nous dit qu'il y a réchauffement, bah c'est sans doute qu'en fait il y en a pas, voilà. Moi je n'en sais rien, mais c'est amusant de voir la réaction systématique des gens quand on dit oh bon moi j'en ai pas grand chose à faire, j'y connais rien, quoi. Voilà, c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est plutôt ce genre d'attitude que moi je prône, parce que le rejet systématique et irrationnel et irrationnel et irraisonné ne mène à rien non plus, et peut même mener à des choses très inquiétantes.
Oui. Ce sont des choses, tout ça, que vous dites à vos étudiants aussi. Vous êtes spécialiste de la rhétorique. Est-ce que c'est intéressant, la rhétorique, de ce point de vue-là?
Alors là, je suis en congé parental depuis plusieurs années. Donc, les étudiants, je ne les ai pas vus depuis longtemps. Mais oui, c'est le genre de choses que je leur disais. Enfin, j'essayais de mettre au jour, justement, ce que vous avez appelé l'univocité du discours médiatique, de leur faire sentir la pression de ce discours intimidant dont je parlais tout à l'heure, pour qu'ils soient capables d'adopter cette distance saine.
Oui. Ingrid, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. On va se revoir dans quelques temps pour évoquer l'Empire du Bien. Ceux
avec
qui ont lu Philippe Muret sauront de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a un autre livre fait sur le feu?
Non, là, j'ai pas le temps.
Pour
ces temps-ci.
Très bien. Donc, à lire La langue des médias d'Ingrid Rieucru, un livre tout à fait fréquentable. Merci à Simon en régie. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition Chartraine d'Écho de ma commune.